oui, puisqu'il y a environ 4,5 milliards d'années, naissait la Terre, notre bonne vieille Terre, née certainement de l'accrétion de millions de météorites et de planétésimaux dans ce qui est à l'époque la nébuleuse solaire. Et puis très vite, cette boule de magma s'est refroidie, elle s'est structurée, elle s'est différenciée en noyaux, en manteaux et puis en croûte terrestre. Elle s'est dotée d'un champ magnétique protecteur et puis d'une atmosphère et d'océans enfin qui abriteront la vie. Tout cela très rapidement à l'échelle cosmologique. En quelques centaines de millions d'années, des planètes voisines comme Mars et Vénus, elles, n'ont pas eu cette chance. C'est l'histoire de ces débuts que nous allons vous raconter. Les débuts de la Terre, une histoire sous le manteau, c'est cette histoire qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et les deux narrateurs de cette histoire de nos tout débuts sont aujourd'hui Alessandro Morbidelli, bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, très bien. Oui.
Bonjour, vous êtes en duplex depuis les locaux de nos collègues et camarades de France Bleu Azur à Nice. Vous êtes astronome, planétologue, directeur de recherche CNRS au laboratoire Lagrange et directeur du programme national de planétologie à l'observatoire Nice Côte d'Azur. Et nous sommes ici en studio à Paris à la Maison de la Radio avec Julien Siebert. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géophysicien, enseignant-chercheur à l'Université Paris Diderot, également chercheur dans l'équipe cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale de l'Institut de physique du globe de Paris. Nous sommes, comme chaque jour, vous le savez désormais, faut-il encore vous le répéter, en direct sur Twitter pour compléter tout ce qui va se dire au cours de cette heure d'émission sur le fil de l'émission @laméthodefc où vous pouvez nous suivre et nous rejoindre. Alors pour commencer cette préhistoire, cette proto-histoire, disons, de la Terre, est-ce qu'on peut dire en quelques mots, en termes de propos liminaires, qu'elle est parfaitement connue, que aujourd'hui les théories font l'unanimité, ou est-ce qu'il y a encore quelques zones d'ombre, Alessandro Morbidelli?
Bon, les théories font jamais l'unanimité, mais certainement il y a eu des énormes avancées dans les dernières 20 ans. Grâce à la synergie entre observations astronomiques des disques protoplanétaires autour des autres étoiles et des exoplanètes, grâce aux mesures géochimiques et cosmochimiques sur les roches de la Terre et les météorites, et grâce à la modélisation par les biais de l'informatique des ordinateurs. Et donc aujourd'hui, on commence à avoir des histoires vraiment cohérentes sur la formation de la Terre, mais comme on verra certainement au cours de cette émission, il y a encore beaucoup de points à élucider.
Est-ce que la vérité générale, disons, de l'astrophysicien est aussi celle du géophysicien, Julien Siebert ?
Oui, je dirais en partie, je suis d'accord avec ce que Alessandro a dit. Maintenant, c'est vrai qu'il y a, il y a un consensus sur les grandes étapes d'accrétion des planètes. En revanche, l'origine des matériaux qui ont formé ces planètes n'apparaît pas faire consensus et reste encore une grande question ouverte des géosciences aujourd'hui.
Alors, notre connaissance de la formation de la Terre et de sa composition est assez contemporaine. Écoutez, la conception qu'en avait Descartes, c'est notre archive CNRS, image du jour extraite du film Voyage à l'intérieur de la Terre. Écoutez, c'est le géophysicien Vincent Deparis qui s'exprime.
Alors, la Terre était initialement un ancien Soleil. Elle conserve encore un noyau de matière stellaire, c'est noté I sur les différents schémas. Et ce noyau est enveloppé de différentes couches, parfaitement sphériques et parfaitement emboîtées les unes dans les autres. Donc, on trouve d'abord une couche de Terre, puis une couche d'eau, une couche d'air et une nouvelle couche de Terre qui forme la croûte extérieure. Donc, ce qui est étonnant, c'est que la Terre de Descartes est creuse, et que la couche externe se maintient comme une voûte au-dessus des couches d'air et d'eau. Mais l'équilibre est forcément instable, et la croûte finit par se fissurer et s'effondrer d'une manière inégale. C'est ce qui crée les montagnes. Donc, tout le relief de la Terre s'est formé par la suite d'un effondrement général. Il résulte en quelque sorte d'une immense catastrophe planétaire.
Voilà, cette immense catastrophe planétaire qui est la conception cartésienne de la formation de notre planète. Les théories contemporaines, celles dont nous avons parlé au cours de cette heure, elles commencent à apparaître, ces hypothèses, elles commencent à se former à partir de quand, Alessandro Morbidelli ?
Ben, disons, dans les années 70-80, surtout il y a un ancien astronome, George Wetherill, qui a vraiment été le pionnier du mariage entre l'astronomie et la géophysique. qui a commencé à émettre des hypothèses, à faire les premières simulations avec les moyens de l'époque. Et il a vraiment tracé la voie que tout le monde suit aujourd'hui. Et donc, je dirais, à partir des années 80, c'est la nouvelle phase de la modélisation de la formation planétaire.
Julien Sébert ?
Oui, moi, alors, Alessandro a une vision très, très, je dirais, physique et astrophysique du problème. Moi, je pense qu'on a, des observables géochimiques et cosmochimiques qui ont apporté énormément d'informations sur l'accrétion et les processus qui ont amené la Terre à avoir sa structure radiale qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une croûte, un manteau et un noyau. Et ces informations géochimiques et cosmochimiques, elles datent, je dirais, des années 60-70 via des géochimistes comme Ringwood et des géophysiciens comme Birch. Donc on a une complémentarité, je dirais, entre ces deux approches qui a permis d'apporter beaucoup d'informations.
Vous, Julien Sébert, votre matériau d'étude principal en tant que géophysicien, c'est principalement les chondrites, hein, les petites météorites qu'on trouve sur Terre. Comment est-ce qu'elles nous permettent, comment est-ce que vous les travaillez et comment est-ce qu'elles permettent de reconstituer cette histoire et ces hypothèses ?
Alors, moi, mon matériau, effectivement, on utilise... Alors, le problème de la Terre, si on veut comprendre de quoi elle est faite et comment elle s'est faite, c'est qu'on est obligé de partir de matériaux primitifs qui représentent les briques élémentaires qu'ont formé les planètes. La Terre, c'est une planète où on n'a pas d'échantillons qui sont hérités des premiers instants de sa formation, parce que c'est une planète qui est vivante, donc on a de l'érosion, de l'altération, on a des roches qui sont réinjectées dans le manteau par la subduction, on a de la surrection, on a du métamorphisme des roches. Donc on n'a pas de roches qui témoignent des premiers instants de la formation de la Terre. Donc il faut aller chercher des roches témoins de ces premiers instants primitifs de la formation des planètes qu'on trouve et qui viennent de la ceinture d'astéroïdes, hein, qu'on trouve sur Terre, qui sont des météorites. Et parmi ces météorites, on a deux grands types de météorites. On a des chondrites, effectivement, qui représentent la majorité des chondrites qu'on reçoit sur Terre, qui sont des météorites qui sont très intéressantes parce que elles ne sont pas différenciées. C'est-à-dire qu'on a un mélange intime dans les matériaux qui forment ces chondrites, à la fois de métal et de silicate. Donc à la fois, on a un mélange des phases et des constituants qui vont former le noyau de la Terre.
Le métal,
voilà, qui est fait de métal. Et puis, on a des silicates qui vont être les constituants majeurs du manteau. Donc, à l'échelle de ces chondrites, hein, qui sont parfois centimétriques, on a une représentation globale de la chimie de la Terre. Donc c'est pour ça qu'on part de ces matériaux-là et ensuite, eh ben, on fait des expériences, nous, pour essayer de comprendre comment ces matériaux, quand ils se sont différenciés en un noyau et un manteau, quel est le produit en fait de cette différenciation et quelle est la composition chimique des réservoirs terrestres profonds qu'on va obtenir à partir de la différenciation de ces météorites.
Alors on parlera tout à l'heure de la différenciation, on va prendre l'histoire depuis le début et je me retourne vers Alessandro Morbidelli puisque pour parler de la proto-histoire, des tout débuts de ce qu'on appelle l'AD1, le premier éon, le premier âge de la Terre, il faut parler de l'origine du système solaire, de ce qu'on peut en déduire par l'observation, ce que vous disiez tout à l'heure Alessandro Morbidelli. À quelle époque est-ce qu'on estime aujourd'hui que on peut parler de la Terre en tant qu'une planète unique ?
La Terre a mis entre 50 et 100 millions d'années pour se former, on n'est pas tout à fait sûr, mais un temps assez long. Donc, si vous permettez, je vais faire un petit rappel de comment les planètes se forment. Donc,
absolument.
Quand une étoile se forme, elle est entourée par un disque de gaz et de poussière qu'on appelle les disques protoplanétaires, qu'on voit autour de toutes les étoiles jeunes. C'est à partir de ces disques et des poussières du disque qui se forment les planètes. Les disques ne durent pas très longtemps. Au bout de 3, 5, 10 millions d'années maximum, ils disparaissent et tous les gaz donc s'en vont. Alors, dans notre système solaire, on a deux classes de planètes. On a les planètes géantes et les planètes telluriques comme la Terre. Les planètes géantes ont acquéri beaucoup d'hydrogène. Donc, ça veut dire qu'elles se sont formées très rapidement avant que les disques de gaz disparaissent. Donc, elles se sont formées en quelques millions d'années seulement. Ça veut dire que dans la partie externe du système solaire, il y a eu une croissance planétaire formidable. En revanche, on sait, en regardant les roches de la Terre, leur composition, leur isotope, etc., que la Terre a mis beaucoup de temps, entre 50 et 100 millions d'années, pour se former. Donc la Terre s'est formée bien après la disparition du disque protoplanétaire. Donc les modèles qui explique ça, hein, que en fait la croissance planétaire dans la partie interne du disque était très lente. Mm-hmm. Quand le disque a disparu, il y avait une dizaine ou une vingtaine de protoplanètes d'une masse comparable à la masse de Mars. Et quand le gaz a disparu, ce système de mini-planètes très nombreuses est devenu instable. Et ces protoplanètes sont rentrées en collision entre elles. Et par les biais d'une série de collisions géantes, la Terre et Vénus ont émergé avec leur masse finale, qui est 10 fois la masse de Mars. Et la dernière de ces grandes collisions aurait formé la Lune. On en parlera tout à l'heure.
Ce modèle, qui est un modèle que vous avez proposé avec vos collègues au début des années 2000, et qu'on s'appelle le modèle de Nice. C'est ce modèle-là que vous êtes en train de nous décrire.
Non, là, je suis en train de décrire un modèle tout à fait standard qui date justement des années 80, Georges Wetherill, etc. Mm-hmm. Après, les modèles de Nice, Grand Tac, etc., c'est des petites variations sur les thèmes pour expliquer, si vous voulez, des détails. Mm-hmm. Mais les grandes lignes du scénario datent des années 80 par Georges Wetherill.
Donc, on parle à ce moment-là donc d'accrétion, hein, de ce qu'on appelle ces planétésimaux, de ces différentes planètes qui se sont collisionnées, qui ont fini par s'agréger, se concentrer par des effets d'accrétion gravitationnelle. Comment est-ce que ça s'est produit? Est-ce qu'on connaît bien ces mécanismes qui ont conduit à la formation finalement d'un seul ensemble cohérent qui deviendra la Terre, Alessandro Morbidelli?
Oui, aujourd'hui, par les biais des simulations numériques, on peut retracer toute cette histoire d'une centaine de millions d'années en partant d'un système d'embryons planétaires et planétésimaux, et on regarde comment tous ces objets collisionnent entre eux pour donner à la fin 4 planètes seulement, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et on arrive bien à reconstruire un peu d'où vient la matière, à quel moment la matière est agrégée, sur quel temps caractéristique la Terre se forme, et comparer tout ça aux données géochimiques qui finalement sont le véritable témoin de la formation de la planète.
À quoi ressemble le système solaire à cette époque, il y a 4 milliards et demi d'années? Le Soleil a sa forme actuelle ou pas encore tout à fait? Est-ce qu'il est encore un peu moins chaud, un peu plus chaud?
Le Soleil ressemble pas mal au Soleil actuel, mais il est moins chaud. Donc certainement, les étoiles, en vieillissant, produisent plus d'énergie. Donc le Soleil s'échauffe progressivement et continue à s'échauffer progressivement. Donc au départ, on a ce qu'on appelle un Soleil faible, ce qui d'ailleurs constitue un peu un paradoxe, parce qu'une fois que la Terre s'est formée, la Terre recevait à peu près 70% seulement du flux de lumière qu'elle reçoit aujourd'hui. Pourtant, elle était habitable, parce qu'on sait que la première forme vivante était là il y a 3,6, 3,8 milliards d'années. Bon, on peut débattre exactement sur la date initiale, mais la Terre est devenue très vite habitable, habitée, même s'il recevait un flux de chaleur qui était seulement 70% du flux actuel.
Est-ce que on sait, je me retourne vers vous, Julien Siebert, est-ce qu'on sait de façon certaine aujourd'hui quels étaient les composants originels, ces planétoïdes, ces planétésimaux, appelons-les comme vous le souhaitez? Est-ce qu'au moment où ils s'agrègent, on sait exactement quel type de matériaux il s'agit? Est-ce que c'est exactement ce qu'on trouve aujourd'hui dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter?
Alors, c'est une question qui est assez difficile à répondre parce que, bon, alors déjà, une première chose, c'est que les matériaux dans cette nébuleuse solaire sont. Il y a un gradient de composition chimique qui vient de la distance de ces matériaux par rapport à l'étoile. Donc la distance héliocentrique a une influence sur la composition chimique des matériaux qu'on va trouver. Et donc plus on s'éloigne de l'étoile, et plus on va avoir des matériaux qui vont être riches en éléments qui se condensent, donc qui passent de l'état gazeux à l'état solide, à basse température comme l'eau. Quand je me rapproche du Soleil et que je rentre dans la région où je forme les planètes terrestres, j'ai des matériaux qui sont plutôt rocheux, qui sont plutôt métalliques et donc qui sont les constituants majeurs des planètes terrestres. En revanche, dans cette partie interne, on a déjà une variété de matériaux qui est assez importante. Et on ne sait pas à quel point ces matériaux ont été mélangés. Alors ça, Alessandro pourra nous en parler, mais je sais que on a un certain degré de mélange de ces matériaux. On a aussi des matériaux qui viennent des confins du système solaire qui sont amenés à la fin de l'accrétion de la Terre. Donc identifier un matériau en particulier pour former la Terre dans la synthèse d'astéroïdes, c'est un exercice qui est difficile à faire. Alors, on arrive à le faire. On a en effet des chondrites qui ont des signatures chimiques qui sont extrêmement proches de la composition chimique de la Terre, notamment des compositions isotopiques. Alors, je sais pas ce
que
c'est. Oui.
Alors, on peut redéfinir ce que c'est que les isotopes, mais on en a déjà beaucoup parlé dans l'émission. D'accord, mais redites-le en quelques mots quand même. Bon,
pour un élément chimique donné, on a dans un noyau un nombre constant de protons, et on va avoir des isotopes différents en fonction du nombre de neutrons qui est variable.
Donc, exemple, la masse. Exemple, par exemple, l'hydrogène, un proton, un neutron, le deutérium, un proton, deux neutrons, le tritium, un proton, trois neutrons.
Donc, voilà. Donc par exemple, oui. On peut penser aussi à l'oxygène, 16, 17, 18, le carbone, 12 et 14, qui est très connu. Il y en a un qui est radioactif, c'est le carbone 14, qui a donc deux neutrons de plus que le carbone 12. Donc la Terre, il y a des chondrites qui ont des proximités isotopiques, en oxygène notamment, très proches de la Terre, comme des chondrites en statite, par exemple, c'est un peu un nom barbare. Mais on pense que cette composition isotopique en oxygène, elle est liée justement à la distance à laquelle les matériaux se sont condensés par rapport au Soleil. Donc trouver un matériau qui a exactement la même signature isotopique en oxygène que la Terre, a priori, c'est déjà un bon premier indice pour dire que la Terre vient de ce type de matériau. En revanche, il y a évidemment plein de difficultés pour faire la Terre avec ce type de chondrite-là. Et donc, du coup, il n'y a toujours pas de consensus sur la nature exacte des matériaux de la ceinture d'astéroïdes, donc de ces briques primitives qui ont formé les planètes, pour former la Terre. On pense que ça pourrait être tout à fait un mélange de plein de choses.
Il nous manque probablement un réservoir, c'est-à-dire que les météorites viennent aujourd'hui de la ceinture des astéroïdes, donc des petits corps qui sont restés entre Mars et Jupiter. Mais la plupart de la matière qui a créé la Terre vient à peu près de la région où s'est formée la Terre. Et il n'y a plus de planétésimaux qui restent de cette région, donc il pourrait nous manquer en fait des briques primordiaux qui ont fabriqué la Terre. Et c'est pour ça que quand on cherche à mélanger les chondrites connues pour faire la Terre, on n'y arrive jamais. Toutes les chondrites, par exemple, sont enrichies dans les isotopes lourds du molybdène. Et donc, vous pouvez les mélanger comme vous voulez, vous ne ferez jamais la Terre. Il vous manque un réservoir qui a constitué la Terre au départ et qui n'est plus là.
Oui. Ça, c'est un peu l'argument qui tue. Et effectivement, Alessandro a raison parce que, du coup, si on part de ce principe-là, c'est très difficile pour nous de contraindre la composition chimique de la Terre globale et de comprendre aussi exactement comment elle s'est formée.
Est-ce qu'on peut, on va reparler de ces questions de composition et d'isotopie, de composition chimique, et notamment au moment de la question, de la grande question de l'eau, on en parlera plus tard, mais est-ce qu'on peut expliquer en quelques mots tout de même, Alessandro Morbidelli, pourquoi est-ce que dans ces phénomènes d'accrétion, on arrive à un moment donné, du fait des effets de gravité, à de la fusion, à des températures très, très chaudes, à la fusion de ces matériaux métalliques ou minéraux?
C'est tout simplement l'énergie cinétique des collisions. Disons, les objets s'attirent par leur gravité. Donc deux objets qui passent proches à faible vitesse s'attirent mutuellement jusqu'à rentrer en collision. Et quand ils rentrent en collision, ils ont une certaine énergie cinétique. Et cette énergie cinétique est convertie en énergie thermique. Et donc ça participe à réchauffer l'objet et à permettre sa différenciation. En plus, au départ, les objets contiennent une certaine quantité d'éléments radioactifs que eux vont mourir, vont se transformer dans leurs produits fils. Et en s'y faisant, ils émettent aussi de l'énergie. Donc en fait, on pense qu'il y a deux façons pour fondre et transformer et différencier les objets. Pour les planétésimaux qui se forment assez vite et en agrégeant surtout des poussières, donc il n'y a pas énormément d'énergie cinétique qui est relâchée, c'est l'effet de ces éléments radioactifs dont la décroissance produit de l'énergie. Et pour les planètes, qui en revanche, c'est comme la Terre, c'est formé par les biais des grandes collisions, des collisions d'objets massifs à une vitesse non négligeable. Évidemment, l'énergie cinétique apportée par ces collisions est d'importance primaire pour fondre l'ensemble, créer des énormes océans magmatiques et ainsi permettre la différenciation de la planète.
Julien Cibert ?
Je suis tout à fait d'accord. Donc c'est la combinaison effectivement des impacts et des radioactivités éteintes, par exemple de l'aluminium ou du fer, qui permet de fondre. Alors on a besoin de fondre, et on sait qu'on a fondu ces embryons planétaires, pour les différencier. Parce que si on ne fond pas la phase métallique, par exemple, on n'arrive pas à les différencier et à faire un noyau qui va donc migrer. Hein, donc ce métal, il va fondre. Et du fait qu'il est fondu, il va pouvoir migrer vers le centre de la planète sous l'effet de la gravité, parce qu'il est plus dense que les roches, les silicates qui sont environnants. Donc dans les petits corps planétaires, dans les petits embryons planétaires, a priori, on a fondu que le métal. En revanche, dans les corps plus importants, dans les embryons planétaires type terrestre, on a dû fondre aussi une partie du manteau et avoir, comme Alessandro l'a souligné, des océans de magma très profonds dans lesquels les matériaux se sont séparés. Donc on a deux liquides en fait, hein, qui sont immiscibles, un peu comme l'eau et l'huile. Et le métal, comme il est plus dense, va s'égréger, va migrer vers le centre de la planète et laisser les silicates environnants sans métal.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
16h20 sur France Culture, vous écoutez La méthode scientifique. Nous parlons de la formation des tout débuts de notre belle planète bleue, qui n'est pas encore bleue à l'époque où nous en parlons, puisque nous allons voir que toute cette formation se fait finalement en très peu de temps, et à l'échelle cosmologique et à l'échelle géologique. Nous sommes toujours au tout début, aux alentours de 4 milliards et demi d'années. Nous en parlons avec Alessandro Morbidelli, qui est avec nous en duplex depuis France Bleu Azur à Nice, qui est astronome et planétologue, et ici à Paris, Julien Siebert, qui est géophysicien. Alors, nous en sommes à cette vaste boule de magma en fusion, et on commençait à l'évoquer à l'instant avec vous, Julien Siebert. On arrive à ce phénomène essentiel qu'on appelle la différenciation, avec la création d'un noyau et d'un manteau qui sont différenciés, et surtout, cette différenciation va avoir un effet crucial pour la suite des événements, c'est l'apparition du champ magnétique. Alors, vous l'avez évoqué aujourd'hui, ce processus de différenciation, c'est-à-dire la création d'un noyau métallique et la séparation avec un manteau rocheux, c'est un processus qui est totalement connu, qui est totalement maîtrisé et au niveau géophysique et au niveau astrophysique. Julien Siebert, pour commencer.
Alors, non. Je dirais qu'il n'y a pas Alors, il y a un consensus sur certains détails, sur certains points importants, hein, pardon. Par contre, il y a toujours des questions qui font débat. Je dirais qu'on a la chance quand même dans le manteau. Alors, la Terre, effectivement, n'a pas d'échantillons qui sont les témoins des premiers moments de la Terre primitive, qui sont encore intacts. En revanche, on a des traces dans le manteau, une empreinte, en fait, chimique, de la formation du noyau sur la chimie du manteau actuel. Donc quand je prends une roche du manteau, que je mesure sa composition, j'ai une composition en certains éléments qui va me permettre de contraindre assez précisément la profondeur, par exemple, de l'océan magmatique et à quelles conditions, donc de pression et de température, j'ai formé mon noyau et mon manteau. Alors c'est un processus qui est extrêmement important dans l'histoire géochimique et géologique de la Terre, parce que c'est le processus de fractionnement chimique majeur de l'histoire terrestre. C'est-à-dire que quand je forme le noyau, j'ai des éléments qui vont migrer dedans et qui vont ensuite être stockés définitivement dans ce noyau et qui ne vont plus être réinjectés dans le manteau. Donc les compositions qu'on a actuellement du noyau et du manteau, elles sont strictement héritées de ces processus d'équilibre qu'on a eu à la base d'un océan de magma très profond entre le métal et les silicates, entre le manteau et le noyau. Mmh. Et donc c'est un processus majeur.
En astrophysique, Alessandro Morbidelli, donc cette différenciation, elle a lieu sur la Terre. Ça a eu lieu dans toutes les planètes telluriques, au moins que l'on connaît à proximité du système solaire.
Oui, tout à fait. La différenciation a eu lieu pour toutes les planètes. Je dirais aussi pour certains petits corps. Vesta, par exemple, un des astéroïdes majeurs de la ceinture des astéroïdes, a eu une différenciation, une croûte de basalte, un manteau, certainement un noyau de fer. On voit dans la ceinture des astéroïdes entièrement de fer. On pense qu'ils sont en fait les noyaux d'anciens embryons planétaires, protoplanètes, qui ont explosé lors des collisions. Et donc les manteaux et la croûte sont partis. Et les noyaux ont été exposés, et aujourd'hui exposés. Il y a une mission de la NASA que d'ici quelques années ira visiter un de ces objets, ça s'appelle Psyche. Les gros problèmes par rapport à ce que disait Julien tout à l'heure est que souvent, pour les grosses planètes, les processus de différenciation n'est pas un processus à l'équilibre, parce que quand la Terre est collisionnée par des gros impacteurs, qui eux-mêmes sont déjà différenciés, il y a un sort de mélange des noyaux de l'impacteur, de l'impacté avec les manteaux, et tout ça, ça se passe en quelques heures. Donc on n'a pas tout à fait la capacité d'avoir des transformations à l'équilibre. Et donc la grosse question, à quelle partie du noyau l'impacteur interagit avec quelle partie du manteau de la cible. Et la France est un pays leader dans les simulations et dans les expérimentations des laboratoires de comment justement les liquides métal et silicate peuvent se mélanger, interagir, en quelle portion, etc. C'est des processus très 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 compliqués à évaluer parce que bien sûr, c'est pas, la réalité, c'est une échelle qui n'est pas réalisable en laboratoire.
Et parce que justement, vous parliez d'impacteurs et Julien Sieber, vous parlez de quelques énigmes qui restent. Il y a une énigme qui est celle de la présence de carbone en abondance dans le manteau, alors que logiquement, il aurait dû soit s'évaporer, soit au contraire être attiré par le fer du noyau, ce qui laisse supposer que la Terre a connu plusieurs impacts majeurs au tout début de son histoire, dont un qui pourrait expliquer justement cette origine du carbone.
Alors,
je vais peut-être un peu vite en besogne, mais à vous de nous donner les détails.
Je suis pas persuadé qu'on puisse dire que le carbone est un élément très très abondant finalement dans la Terre globale. A priori, le carbone, il est arrivé à la fin. Ça fait pas consensus non plus. C'est une question qui est ouverte. Moi, mon sentiment, c'est que ces éléments qui sont volatiles, comme le carbone, comme l'eau, comme l'azote, tous les éléments atmophiles, sont plutôt arrivés dans les dernières étapes de la accrétion terrestre, au moment où on a déjà la Terre qui s'est séparée et qui s'est différenciée en un noyau et un manteau. Donc le carbone, a priori, ne représente pas un élément majeur de la composition terrestre. On devrait en avoir moins de 1% a priori dans la Terre globale. Alors effectivement, on a ensuite du carbone de surface qui vient de la précipitation du CO2 en carbonate qui peut être recyclé dans le manteau profond, former des diamants par ce processus. Mais ça représente une partie quand même assez mineure de la composition chimique globale.
Revenons tout de même alors avec vous, si vous le voulez bien, Alessandro Morbidelli, sur cette question des impacteurs. On est quand même à peu près sûr aujourd'hui qu'à cette époque, au tout début, avant ce qu'on appellera le grand bombardement tardif, que la Terre a été est entrée en contact, alors qu'elle était déjà un ensemble, avec un ou plusieurs gros objets étant des planètes de la taille de Mercure ou de Mars.
Oui, je dirais qu'aujourd'hui, ceci fait le consensus. La Lune, pour former la Lune, on a besoin d'un tel impact, et on a aussi d'autres évidences géochimiques qu'il y a probablement eu d'autres impacts géants avant pour expliquer certains fractionnements chimiques dans la Terre. Et on voit aussi des traces d'impact géant un peu sur toutes les autres planètes aussi. Mercure a perdu une grosse partie de son manteau, ce qui nécessite un impact géant aussi. Mars a un hémisphère qui est complètement écrasé, ce que peut s'expliquer par un impact d'un objet de la taille des Cérès sur Mars. Donc ces impacts géants sont vraiment dans l'ADN des planètes telluriques. Je pense que les planètes se forment surtout par une série d'impacts géants.
Et pour ce qui est précisément, parce que là, tout ça, cette différenciation, il faut le dire, le répéter, je l'ai déjà dit, mais ça se passe très très rapidement. On est sur quoi? Sur 30 millions d'années à peu près?
Oui, Alexandre, tout à l'heure, disait que la création et la différenciation, finalement, la formation globale d'une planète à partir des quand on prend les premiers solides qui se forment dans la nébuleuse solaire, on peut les dater relativement bien, maintenant, avec des chronomètres radioactifs, des couples père-fils. Radioactif et radiogénique. Alors, ce qu'on voit, c'est que finalement, entre la formation des premiers solides et la formation d'une Terre, où on est différencié avec la présence de croûte et même éventuellement la présence déjà d'océans, il faut environ 200 millions d'années. Alors pour moi, effectivement, c'est quand même une échelle de temps qui est très rapide par rapport à l'histoire et l'âge de la Terre aujourd'hui, qui est de 4,56 milliards d'années environ. Donc, quand Alessandro dit c'est très rapide, je pense qu'il fait allusion aux planètes géantes qui, elles, se forment beaucoup plus vite que les planètes terrestres.
Oui, tout à fait.
Mais finalement, c'est quand même des processus qui sont extrêmement rapides. Mais c'est aussi dû à la violence des processus qui permettent de faire cette différenciation qui est très rapide.
J'aimerais qu'on redise aussi un mot de ce que vous évoquiez à l'instant, Alessandro Morbidelli, c'est la formation de la Lune, qui intervient aussi très tôt dans l'histoire de la Terre et qui, pour le coup, déterminante certainement sur beaucoup de choses, parce que le système Terre-Lune va permettre un certain nombre de phénomènes géologiques et géochimiques qui n'auraient pas été possibles si la Lune n'avait pas existé.
Oui, bien sûr. Disons, deux choses me viennent à l'esprit. D'une part, la présence de la Lune permet de stabiliser l'axe de rotation de la Terre, comme a été montré il y a maintenant pas mal d'années par Jacques Lascar à Paris. C'est-à-dire, si la Lune n'existait pas, la précession de l'axe de rotation de la Terre rentrerait en résonance avec d'autres fréquences de précession orbitale, et donc l'inclinaison de l'axe de rotation oscillerait de façon chaotique, changerait de façon chaotique entre 0 et 90 degrés. Ceci serait très très grave pour la stabilité du climat et la stabilité du cycle saisonnier. L'autre grande importance de l'existence de la Lune est dans les marées. Il paraît que les marées ont joué un rôle tout à fait important pour l'émergence de la vie. Par exemple, avec la montée et la descente de l'eau, ça permet de lessiver les sols et donc d'apporter, d'éroder les sols et d'apporter des nutriments dans l'eau. L'eau en soi est stérile, donc c'est en rapportant des nutriments dans l'eau que peut-être la vie a pu se développer. Et aussi, l'émergence de la vie hors de l'eau sur les continents est probablement passée par ce qu'on appelle des tidal pools, c'est un peu des piscines, des marées, dans des zones qui sont envahies par l'eau pendant les marées, et après l'eau se retire et les zones restent en dehors de l'eau pendant 6 heures, avant que 12 heures, avant que la marée revienne. Et donc ceci aurait permis à certaines formes vivantes de s'adapter à une vie hors de l'eau. Donc qu'est-ce qui se serait passé sans la Lune et donc sans les marées du tout? C'est très difficile à évaluer. Parce qu'évidemment, on connaît seulement une planète sur laquelle la vie s'est créée, c'est la Terre. Pour le moment. Mais la Lune semble bien jouer plus d'un rôle dans l'histoire.
Julien Sébert.
Oui, alors moi je voulais juste ajouter quelque chose qui est une découverte relativement récente, c'est que quand on fait cet impact lunaire, on génère dans la Terre des températures qui sont extrêmes, parce que c'est un impact qui est une collision qui est très très énergétique. Et donc on a un impact lunaire qui est donc qu'on appelle Théia, qui est déjà probablement un corps différencié avec un noyau et un manteau. Et le noyau de cet impacteur va se ségréger, va migrer et s'ajouter au noyau de la Terre préexistant. Quand ce noyau va migrer dans la Terre, dans le manteau, dans cet océan de magma primitif de la Terre, il va s'équilibrer à des températures extrêmes, qui sont dues à ce processus de collision massif qui a eu lieu avec la Lune.
Enfin, avec Théia, donc voilà, avec Théia, le planétésimal.
Enfin, et donc, quand on a des températures extrêmes comme ça, on commence à mettre dans le fer métallique qui va former le noyau des éléments qui n'ont pas du tout l'habitude d'y être. Alors, ce qu'on a vu récemment, c'est qu'on pouvait y mettre des éléments qu'on appelle des éléments lithophiles, plutôt, qui donc sont des éléments qui ont des affinités fortes pour les roches, comme par exemple le magnésium. Alors, on met du magnésium dans ce noyau qui va s'ajouter au noyau terrestre préexistant. Et donc on le solubilise dans le fer, mais dès que la Terre, qui est une grosse machine thermique, commence à se refroidir, ce magnésium va pas être content d'être dans la phase métallique et va avoir envie de s'exsolver un peu comme des bulles dans une bouteille de Perrier, si vous voulez. Il va se retrouver hors le métal, et comme sa densité est beaucoup plus faible que le métal, il va remonter dans le noyau et générer comme ça des mouvements métalliques dans le noyau. Donc du coup, générer des mouvements dans le métal, c'est générer du champ magnétique. Donc si on n'a pas l'impact lunaire, on n'a pas forcément les conditions de température pour mettre des éléments comme le magnésium dans le noyau. Et donc, on n'a pas forcément moyen de créer un champ magnétique très précoce, qui est forcément un prérequis pour l'apparition de la vie.
Alessandro Morbidelli, cette pardon, cette théorie selon laquelle le champ magnétique terrestre a été amorcé par l'impact de Theia, donc qui a créé la Lune. C'est un scénario que vous partagez, que vous validez aussi?
Oui, tout à fait. Et le fait que Vénus n'est pas une lune et pas un champ magnétique en même temps supporte pas mal cette vision. Donc l'impact, un impact tardif, disons, comme celui qu'a formé la Lune, pratiquement à la fin de l'assemblage de la Terre, est très bénéfique pour remélanger les noyaux et pour mettre ces éléments légers comme les magnésiums, qui ensuite permet aux noyaux d'être en ébullition, disons en convection, et donc c'est la convection du noyau qui génère les champs magnétiques.
Qui amorce la dynamo en quelque sorte.
Oui, c'est ça, tout à fait. La dynamo est la convection du noyau.
Un extrait de la danse de la Terre de Stravinsky à 16h36 sur France Culture. Puisque nous parlons bien de la création de notre planète Terre tout au long de cette heure avec Alessandro Morbidelli qui est avec nous en duplex dans les locaux de nos camarades de France Bleu Azur à Nice. Alessandro Morbidelli, astronome, planétologue, directeur de recherche CNRS au laboratoire Lagrange et directeur du programme national de planétologie à l'observatoire Nice Côte d'Azur, et ici à Paris avec Julien Siebert qui est géophysicien, enseignant-chercheur à l'Université Paris Diderot, également dans l'équipe de cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale de l'Institut de physique du globe de Paris, où nous allons aller dans quelques instants, puisque nous continuons à avancer dans la proto-histoire de notre belle planète bleue, précisément eh bien, au moment où elle va se recouvrir de bleu et gagner ce célèbre sobriquet. Nous avons parlé de différenciation tout à l'heure pour la formation de du manteau, du noyau, mais également un peu plus tard de la croûte continentale. Il faut parler de vernis tardif avec cette question centrale, d'où vient l'eau ? Question qui est elle-même le corollaire de d'où vient l'atmosphère, l'un et l'autre étant étroitement liés. Bonjour Céline Lozen.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Alors vous vous êtes rendu précisément dans le laboratoire sur les gaz rares de l'Institut de physique du globe de Paris à la recherche de la composition de cette atmosphère primitive.
Et oui, parce que si les chercheurs ont une idée de la nature des gaz présents à l'époque, ils ne connaissent pas encore leurs proportions exactes. Ils essayent donc de retrouver les teneurs fines des éléments chimiques de l'atmosphère primitive en étudiant les rapports isotopiques, et pour ça ils se servent de roches océaniques qui servent de témoins. Mais il y a un gros problème puisque l'atmosphère actuelle contamine en quelque sorte les échantillons récoltés. Alors comment le contourner? C'est un des projets menés par Manuel Moreira, chercheur en géochimie, et Sandrine Perron, sa doctorante à l'IPGP.
Donc là on arrive au laboratoire de géochimie et cosmochimie qui utilise la spectrométrie de masse pour l'essentiel de ses travaux. Ici, ce sont des instruments qu'on appelle des ICP-MS, donc des spectromètres à source plasma. En fabriquant un plasma, on va ioniser tout l'élément chimique qui nous intéresse. Et ensuite, on va étudier ce qu'on appelle la composition isotopique d'une roche ou d'une météorite. On fait des modèles indirects pour recomprendre ce qui s'est passé à cette époque. Donc ici, on voyait un spectromètre de masse à source plasma. Et donc on en a toute une série qui vont servir à étudier plusieurs types d'éléments chimiques, des éléments comme le calcium, l'aluminium, etc.
C'est des éléments chimiques qu'on pouvait retrouver déjà à la période de formation de la Terre?
Oui, ce sont même eux qu'on retrouve en premier dans le système solaire.
Alors ici vous avez des fours, ils servent à quoi?
Donc ici on a des fours qui servent à chauffer les échantillons pour les dégazer.
Donc en fait vous prenez des échantillons des planétésimaux, des météorites, de la roche, Vous les mettez dans le four, vous chauffez et vous observez le dégazement qu'on retrouvait dans le processus de formation de l'atmosphère primitive.
Tout à fait. L'ensemble des instruments, c'est un spectromètre de masse qui va analyser les gaz rares, les éléments de la dernière colonne du tableau de Mendeleïev, l'hélium, le néon, l'argon, le krypton, le xénon, qui sont des éléments qui vont être intéressants pour comprendre l'origine justement des atmosphères ou des océans sur la Terre. Ce qu'on peut montrer, c'est qu'une partie de l'atmosphère s'est formée très très tôt dans l'histoire de la Terre. Alors, si je donne des âges, donc la Terre s'est formée à peu près à 4,5 milliards d'années. Et très très tôt, en quelques millions d'années après ça, on avait déjà une atmosphère. Probablement lorsque la Terre était très chaude en raison des impacts ou des collisions géantes. C'est un phénomène géologique qui est plus facile pour dégazer une Terre solide.
Là, on est où, là ?
Alors là, on est dans une des salles du laboratoire gaz rare avec un spectromètre de masse. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de retrouver la composition qu'avait l'atmosphère primitive il y a 4,4 ou 4,45 milliards d'années.
Là, en fait, c'est ce qu'on appelle la cellule laser. En fait, donc il y a mes échantillons de basalte qui viennent de la dorsale atlantique, donc vraiment au milieu de l'océan Atlantique, et qui ont été ramassés lors d'une campagne océanographique. Bah, je peux vous montrer. Regardez juste là.
Ah oui, on a un petit échantillon.
Il y en a trois, donc là on peut observer deux bulles en section.
Je vois effectivement deux bulles noires et plein de petits points blancs qui sont...
Après ça c'est l'aspect de la surface, donc les échantillons en fait on les... avant de les mettre sous vide, donc tout ça c'est la cellule laser et tous les tuyaux en fait que vous voyez là, ils sont sous ultravide. Et avant de pouvoir mettre les échantillons sous ultravide, il faut un peu les laver. Nous, ce qu'on essaye de développer ici, c'est la technique d'ablation laser pour aller directement percer les bulles des échantillons pour avoir accès à une composition relativement primitive, donc la composition de départ en fait, qu'il y avait en gaz rare sur la Terre. Ensuite, donc, comme vous expliquait mon directeur, donc, c'est par dégazage en fait, du manteau qu'on peut expliquer entre autres la formation de l'atmosphère. Mais le problème en fait, avec les échantillons du manteau qu'on ramasse au fond de l'océan, c'est qu'on peut avoir aussi une contamination par l'atmosphère elle-même. En fait, on a un mélange entre la composition du magma qui a été piégé dans les bulles et ce qui a été rempli par une contamination par l'air en fait dans les fractures. C'est le but de développer cette technique d'ablation laser en fait en allant directement percer les bulles en les repérant et en étudiant les échantillons bulle par bulle. On arrive à s'affranchir a priori de cette contamination atmosphérique. Donc là, en fait, c'est une image de mon échantillon qu'on a obtenue par une technique d'imagerie 3D, donc qui est un peu le même type de technique qu'on pourrait avoir en imagerie médicale, en fait. Donc ici, c'est juste que j'ai reconstruit la surface de mon échantillon que vous avez pu voir. Donc là, vous voyez que la surface, mais j'ai aussi d'autres images où, en fait, on voit des coupes en 2D de mes échantillons. Donc il faut imaginer que l'échantillon en dessous, il continue. En fait, j'ai des coupes qui me permettent de localiser très précisément mes bulles et de savoir, par exemple, à 100 micromètres de profondeur de la surface que vous voyez là, j'ai une bulle qui fait, par exemple, 500 micromètres de diamètre que je vais essayer d'aller percer avec le laser. Et donc ensuite, on analyse ces compositions et notamment donc, ce qu'on appelle les rapports isotopiques, c'est-à-dire qu'on mesure là, un rapport entre deux isotopes d'un même élément. On espère, comme ça, remonter à la composition du manteau qui n'est pas contaminé et donc essayer de proposer des scénarios pour l'origine des éléments volatiles et donc des gaz rares sur Terre. Et ainsi aussi de comparer et d'expliquer l'origine des gaz rares de l'atmosphère.
Le reportage de Céline Lozen à l'Institut de physique du Globe. Votre réaction, puisque ce sont vos collègues qu'on vient d'entendre, Julien Siebert.
Oui, donc c'est des mesures extrêmement précises qui sont conduites là-bas. Alors, l'origine de l'atmosphère et l'origine de l'eau en particulier... c'est un problème qui est bien connu, évidemment, en sciences de la Terre. Je dirais qu'il y a peut-être une vision de voir ce problème assez radicale. On a dans le manteau de la Terre des éléments qui ne devraient pas être là. C'est des éléments qui sont des éléments très sidérophiles. Comme, donc qui
sidérophiles, donc qui aiment le fer.
Qui devraient être allés voilà, dans le noyau au moment où on a à différencier le noyau et le manteau. Donc, c'est des éléments type éléments du groupe du platine, osmium, iridium, l'or, tous ces éléments-là. Alors, ces éléments-là, ils sont en excès dans le manteau, c'est-à-dire qu'on en a beaucoup trop par rapport à ce qu'on devrait avoir. C'est un problème qui est connu depuis les années 70, et une façon assez, finalement, triviale de l'expliquer, c'est de dire qu'une fois qu'on a formé la Terre, qu'on l'a différenciée, on amène des matériaux type chondritique, à la surface de la Terre. Et ces matériaux, ils vont refertiliser le manteau en ces éléments très sidérophiles. Alors maintenant, si je m'amuse à faire un petit calcul back the envelope, là, et que je me dis combien il me faut de matériel chondritique donc pour expliquer cet excès d'éléments très sidérophiles dans le manteau, je me rends compte qu'il ne me faut pas beaucoup, en fait. Il me faut à environ 1% de matériaux chondritiques qu'on amènerait après que la Terre se soit différenciée.
Donc grand bombardement tardif ?
Non, c'est avant, donc c'est ce qu'on appelle le vernis tardif. Donc ce vernis tardif, on estime très bien, enfin relativement bien, sa quantité, donc c'est environ 1%. Et si je m'amuse maintenant à regarder la teneur que j'ai en eau dans les matériaux chondritiques qui ont éventuellement pu former ce vernis tardif.
Donc les météorites,
Je me rends compte que avec 1% de météorites chondritiques qui contiennent quand même autour de 10% d'eau, je peux expliquer toute la masse d'eau que j'ai dans les océans de la Terre. Donc finalement, l'apport des volatiles sur Terre peut simplement s'expliquer par cet apport tardif de matériel chondritique à la surface terrestre.
Donc d'être totalement exogène et pas du tout endogène lié à des dégazages.
Bon, je pense qu'il y a une contribution des deux, donc qui me paraît assez évidente.
Un mot aussi, Alessandro Morbidelli, sur cette finalisation entre guillemets de la Terre, sur ce que vient d'évoquer Julien Siebert, le vernis tardif et puis la constitution de la croûte aussi qui se fait dans un dernier temps.
Oui, bien sûr. Bon, juste pour dire que, en fait, je pense pas que l'eau arrive entièrement pendant les vernis tardifs. Il y a certainement de l'eau qui a dû arriver avant. C'est très difficile d'imaginer que la Terre s'accrète à partir d'un certain type de matériaux et puis à la fin, quand la création de la Terre est finie, allez hop, on ouvre les vannes et on permet à
on
des astéroïdes qui portent l'eau.
C'est l'hypothèse de la salle de bain en dernier, c'est ça.
Voilà. Il y a aussi des contraintes isotopiques, par exemple la fameuse corrélation rutétium-molybdène montre que les vernis tardifs n'est pas fait par des matériaux radicalement différents de ce qu'on fait la Terre avant. Et dans les modèles, on voit qu'en fait... dès que les planètes commencent à grossir, il y a un certain brassage, un certain mélange dans les disques. Donc ces objets carbonés qui sont riches en eau, qui sont en fait des astéroïdes qui à l'origine étaient proches de Jupiter, commencent à envahir la zone terrestre et commencent à collisionner la proto-Terre et donc commencent à porter leur eau, disons, une fois que la Terre a acquis à peu près la moitié de sa masse. L'eau en fait est très bien mélangée après avec les laves dans l'océan magmatique et ce qui peut expliquer ce dégazage très précoce dont parlait Emmanuel Morera tout à l'heure. Il faut déjà avoir des volatiles dans les laves évidemment pour les dégazer, s'il faut encore attendre. En terre complètement sèche, il faut encore attendre que les volatiles arrivent. Les dégazages ne seraient pas si rapides. Cependant, bon, l'eau clairement vient de ces objets carbonés. La composition isotopique de l'eau sur Terre est identique à l'eau des chondrites carbonées. Le rapport d'essurage est le même.
Pour l'azote, d'essurage, c'est deutérium, hydrogène.
Les nombres d'atomes de deutérium par rapport au nombre d'hydrogène dans la molécule d'eau.
C'est grâce à ce rapport-là qu'on s'est rendu compte aussi que l'eau ne venait pas d'objets plus lointains comme Rosetta, puisque le rapport deutérium-hydrogène sur la glace de Rosetta est bien trop élevé par rapport à celui de la Terre.
L'azote, pareil, l'azote a exactement la même composition isotopique de l'azote de ces astéroïdes carbonés, alors que l'azote cométaire a une composition différente. Donc on commence, là aussi c'est cette synergie dont je parlais au départ, entre simulation et mesures géochimiques et cosmochimiques, qui commence à former des scénarios, des concordiades, d'accords, disons, entre différentes disciplines.
Mais pourquoi est-ce que la Terre, en se refroidissant, forme cette croûte terrestre, finalement, Julien Siebert ? Pourquoi est-ce que ça ne reste pas un vaste océan de magma perpétuel ? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il y a cette croûte, cette croûte toute fine qui vient se former à la surface ?
Alors, on ne peut pas, évidemment, quand on refroidit un matériau, au bout d'un moment, on passe en dessous de son point de fusion. Donc on commence à le cristalliser, et c'est ce qui s'est passé effectivement avec cet océan de magma. La Terre se refroidit, c'est une grosse machine thermique, elle convecte très vigoureusement, elle évacue sa chaleur de cette façon-là, et au bout d'un moment, les matériaux passent sous leur point de fusion et commencent à cristalliser. Alors, le problème pour comprendre comment la croûte continentale et la croûte océanique se sont formées en premier, c'est qu'on a évidemment très peu de témoins de ces vestiges de croûte qui sont apparus. Alors, on a pour la croûte continentale, on a quand même des zones avec des de la croûte continentale qui est très primitive, mais qu'on date encore une fois avec des méthodes radioactives, hein, avec par exemple les couples samarium-néodyme ou rubidium-strontium. Mmh. Les roches les plus anciennes, donc de croûte continentale qu'on observe sur Terre, sont datées de 4 milliards d'années au maximum, je dirais. On n'a pas d'échantillons de croûte et de roches tout simplement terrestres qui sont antérieures à 4 milliards d'années. En revanche, on a des minéraux qui s'appellent les zircons, donc qui sont du zirconium, et c'est du silicate de zirconium, hein, ZrSiO. Et ces minéraux sont extrêmement résistants à l'altération, à l'érosion, et on en retrouve aujourd'hui dans des roches. Hein, donc la roche dans laquelle ils ont été fabriqués s'est dégradée, a été érodée. Comme ce sont des minéraux qui sont très résistants à l'altération, ils ont migré dans d'autres roches qui n'ont rien à voir avec leur processus de formation, mais ils sont toujours là et ils gardent des signatures chimiques des premiers instants de la croûte continentale. Alors ce qu'on voit dans ces zircons, d'abord on arrive à les dater, et on date certains zircons à environ 150 millions d'années avec la méthode uranium-plomb. Donc ça montre qu'on avait de la croûte continentale déjà environ 150 millions, 200 millions d'années après la formation des premiers solides dans le système solaire, donc c'est quand même très rapide.
C'est 150 millions d'années après les 4 milliards et demi.
Tout à fait. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est que on trouve dans ces zircons des signatures, par exemple isotopiques en oxygène, qui montrent la roche dans laquelle ces zircons se sont formés, hein, qui est donc un magma granitique, s'est formé en présence d'eau. Donc, a priori, on avait déjà de l'eau à 150-200 millions d'années pour pouvoir expliquer la formation de ces zircons.
Qu'est-ce que, en quelques mots, puisqu'il nous reste quelques minutes, tout de même pour dire, cette atmosphère, ces océans primitifs, ils ressemblent déjà à ceux qui sont là aujourd'hui, l'atmosphère, le rapport oxygène-azote, l'océan, la salinité, tout ça, c'est à peu près la même chose qu'aujourd'hui ou ça a évolué, Alessandro Morbidelli?
Certainement pas pour l'oxygène, parce que l'oxygène qu'on a dans l'atmosphère, qu'on respire, est d'origine biologique. Et l'atmosphère de la Terre était oxygénée il y a 2 milliards d'années. Donc au départ, donc il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère, certainement pas la quantité actuelle, beaucoup d'azote, sans doute beaucoup de CO2. Donc au départ, j'évoquais que le Soleil était moins brillant, et donc la Terre recevait 70% seulement de l'énergie qu'elle reçoit aujourd'hui du Soleil. Pourtant, la Terre n'était pas une boule de glace. Au contraire, même il y a des mesures isotopiques qui semblent indiquer que la Terre était plus chaude qu'à l'heure actuelle. Comment c'est possible? On pense que l'atmosphère était beaucoup plus riche en CO2 que maintenant, et donc l'effet des serres était beaucoup plus fort qu'à l'heure actuelle. Et c'est ce qui a permis la Terre d'être habitable avec de l'eau liquide à 150 millions d'années après 4,5, à cette époque-là, même si le Soleil est encore faible. Donc c'est la seule solution au paradoxe du Soleil faible qu'on a actuellement. Donc l'atmosphère de la Terre évolue avec la géophysique de la Terre, et après les vivants aussi laissent tout à fait son empreinte sur la biosphère.
Comment est-ce qu'on explique que la Terre a réussi, elle, à conserver son atmosphère, là où par exemple Mars l'a vraisemblablement perdue?
Mais Mars est tout petit, donc sa gravité est petite, donc sa capacité à maintenir lié des gaz est évidemment moins bonne que pour la Terre. Vénus, qui est un peu la planète jumelle de la Terre, a une atmosphère qui est très épaisse, très riche en CO2 par ailleurs. Donc, dès que la masse est de l'ordre de la masse terrestre, on peut garder des gaz et une épaisse atmosphère sans problème. Oui, mais si on est trop petit, on ne peut pas survivre, on ne peut pas maintenir une atmosphère.
On peut aussi penser que si la Terre a conservé son atmosphère, c'est également grâce à la présence d'un champ magnétique, puisque le vent solaire a tendance à éroder l'atmosphère.
Ce fameux champ magnétique créé vraisemblablement grâce à l'impact de Théia. Un dernier mot pour dire finalement, et la vie dans tout ça, puisque une étude toute récente qui a été publiée la semaine dernière dans Nature indique que des micro-organismes qui ont été découverts au Canada auraient vécu entre 3,77 et 4,29 milliards d'années. C'est-à-dire que la vie, finalement, les conditions d'apparition de la vie sont immédiatement très 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 peu de temps après la finalisation de la planète, Julien Sievert.
Oui, alors, il y a toujours un débat hein, sur ces biomorphes. On ne sait jamais si on est vraiment en présence de micro-organismes ou bien en présence d'objets minéraux non identifiés. Donc, moi, je dirais même qu'on peut avoir éventuellement de la vie très vite. Hein. Dès qu'on a de l'eau, on peut peut-être avoir de la vie à 4,4, 4,3 milliards d'années. D'autant que, comme je disais, hein, ces minéraux, ces zircons, hein, qui sont les premiers témoins des conditions de la surface terrestre, montrent non seulement qu'on avait de l'eau, mais montrent aussi que finalement cette atmosphère n'était pas si réduite que ça, et donc qu'on avait quand même de la présence d'oxygène, alors pas sous forme d'oxygène libre, hein, mais sous forme de CO2, d'H2O, de N2, de SO2, donc on avait un environnement qui était relativement viable. Alors le problème ensuite, c'est que on a toujours une histoire violente, collisionnelle, hein, malgré tout, à 4,3, donc on a un light heavy bombardement qui arrive ensuite, qui va probablement...
Le bombardement tardif, le grand bombardement tardif.
Alessandro peut vous en parler.
Alessandro Morbidelli, pour conclure justement sur cette apparition très très précoce de la vie.
Ce serait bien de savoir quand est-ce que la vie est apparue. malheureusement, on ne comprend pas très bien comment la vie s'installe. Mais effectivement, dès qu'on a les premières roches sur Terre, on semble avoir plusieurs indices qui indiquent que la vie était là. Donc sans doute la vie s'est formée assez rapidement, même pendant que la Terre était encore intensément bombardée. Elle est passée à travers ces bombardements qui étaient intenses, mais pas suffisamment intenses pour stériliser la Terre. Et puis donc voilà, on la retrouve là. Et c'est étonnant qu'on la retrouve nulle part ailleurs dans les systèmes solaires.
C'est ce grand bombardement tardif, on le suspecte aussi, c'est la théorie de la panspermie, d'avoir amené certaines molécules, certaines briques élémentaires comme des acides aminés primitifs.
Oui, on trouve ces acides aminés primitifs dans les météorites, on les trouve dans les comètes, donc c'est un peu toute la chimie du carbone, hein, pour faire la chimie organique qui vient de ces objets un peu primitifs, comme disait Julien tout à l'heure, et donc les briques primordiaux viennent certainement de ces objets, viennent de l'espace. Après, est-ce que la vie, je pense, est formée sur Terre? Il y a des théories qui disent, oh non, la vie s'est formée sur Mars, après elle a été transférée sur Terre par des météorites. Ça déplace juste le problème, comment la vie s'est formée sur Mars. Donc, et on n'a aucune évidence que ce soit le cas. Donc, la chimie organique, évidemment, nécessite du carbone et des molécules complexes qui, elles, viennent des astéroïdes et des comètes. Et après, sur Terre, un miracle eut lieu et cette chimie organique est devenue vivante.
Et je vais renvoyer nos auditeurs. Un mot de conclusion, peut-être Julien Sébert, parce que je voyais sourire à cette hypothèse martienne de la vie.
Je suis tout à fait d'accord avec Alessandro. Ça renvoie juste le problème à comment s'est formée la vie ailleurs.
Est-ce qu'elle vient des comètes? Est-ce qu'elle vient de l'intérieur de la Terre? Eh bien, je vous renvoie pour ça à l'émission que nous y avions consacrée à la méthode scientifique. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter consacré justement à ces origines de la vie. Comment est-ce qu'on passe de l'état moléculaire à l'état organique? C'est une vaste question que nous n'avons pas tout à fait tranchée encore, sinon ça serait. En tout cas, vous pourrez aller réécouter l'émission en podcast sur le site de franceculture.fr. Merci beaucoup, Julien Sébert. Merci beaucoup, merci. Alessandro Morbidelli, d'avoir merci accepté notre invitation. Mille merci également aux collègues de France Bleu Azur pour le Dupex depuis Nice. Tout ça est à retrouver, comme vous le savez, comme chaque jour, sur le site franceculture.fr. Et merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Céline Lozen, Naémie Naguet de Saint-Vulfranc, Mathieu Lefrançois, Antoine Beauchamp à la réalisation, comme chaque jour, Elisabeth Miro à la technique, Pierrick Moussini et au droit d'auteur Paul Simonacci. Et demain, alors que comme à chaque campagne électorale, la sortie du nucléaire s'invite dans le débat, nous parlerons non pas de la fusion nucléaire du noyau de la Terre, mais des problématiques liées au démantèlement des centrales nucléaires, à moins qu'il ne s'agisse d'opportunités scientifiques, techniques et sociales, qui sait. Allez, dans un instant, Mahomet sur le divan, deuxième épisode de la série documentaire consacrée à l'islam et la psychanalyse par Perrine Kervran et Séam Boutata. On se retrouve demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.